Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Un parfum tenace de dégagisme au Mexique. Le candidat de gauche, AMLO, est grand favori de la présidentielle marquée par le rejet de la corruption et du clientélisme. Reste à connaître l'ampleur des fraudes électorales aujourd'hui. Ce sera le reportage de notre envoyé spécial, Olivier Poujade. Contre l'abaissement de l'âge de départ à la retraite en Russie, l'opposant Alexei Navalny espère mobiliser largement aujourd'hui contre Vladimir Poutine. Nous joindrons Jean-Didier Revoin à Moscou. L'Allemagne, suspendue à la décision de la CSU sur son maintien ou non au gouvernement. Les Bavarois, aile droite de la coalition, se laisseront-ils convaincre par le durcissement promis par Angela Merkel sur l'immigration? Question posée à David Philippot. Et puis une partie importante de ce journal sera bien sûr consacrée à l'évocation de Simone Veil, reçue ce matin au Panthéon, symbole de résistance, d'humanisme, de foi en l'Europe. Nous irons au pied du Panthéon à moins de 2 heures du début de la cérémonie. Le Mexique va-t-il élire un homme de gauche à sa tête? C'est tout l'enjeu du scrutin présidentiel qui se déroule dans ce pays dont les États-Unis ont longtemps cru pouvoir maintenir un protectorat, mais qui semble prêt à se laisser séduire donc par Andrés Manuel López Obrador, en abrégé AMLO, qui est donné grand favori de cette élection. Mais jusqu'au bout, ses partisans craignent des fraudes électorales orchestrées par les deux partis de droite mexicains, le PRI et le PAN. Ils se partagent le pouvoir depuis des décennies. Ils y ont institutionnalisé le clientélisme et la corruption. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Mexico, Olivier Poujade.
C'est le manège habituel qui revient tous les 6 ans à chaque élection sous les yeux de Pablo, militant de Morena, le parti anticorruption du favori AMLO.
Ils offrent des frigos, des gazinières, des chauffages. Hier, je les ai vus en distribuer dans un ranch pas loin d'ici. C'était très organisé. Tout le monde repartait avec son chauffage.
Mais qui distribue à qui?
Ceux du PAN, le Parti d'Action Nationale. Ils font des cadeaux pour acheter les consciences. C'est une honte.
Daniel Isegara a enquêté sur plusieurs cas de corruption visant le gouvernement actuel.
C'est fou à quel point on a l'habitude de donner de l'argent pour plein de choses. Ici, si tu grilles un feu, tu donnes de l'argent aux policiers. Si tu dois obtenir des documents officiels, tu glisses un billet pour que ça aille plus vite. C'est comme ça que la société fonctionne.
AMLO considère que l'argent de la corruption pourrait financer de nombreux programmes sociaux, mais ne dévoile aucun plan pour changer les mentalités et assainir les services publics mexicains.
Un reportage au Mexique signé Olivier Poujade et Gilles Gallinaro. Au Nicaragua, de nouvelles manifestations exigeant la démission du président Daniel Ortega ont eu lieu hier à travers le pays. Dans la capitale Managua, un homme de 23 ans a été tué quand la police a ouvert le feu sur la foule. Cette répression de la contestation qui dure depuis des mois a fait au bas mot 220 morts. Au Nicaragua. C'est une contestation, cette fois, particulièrement populaire, toute proportion gardée, bien sûr, dans la Russie de Vladimir Poutine. Contre le relèvement annoncé de l'âge de départ à la retraite, on s'attend à des manifestations importantes dans 22 villes russes ce dimanche, à l'appel de l'opposant Alexei Navalny, car cette question des retraites est l'une des rares ces dernières années à vraiment écorner la popularité de Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin.
Ce dimanche pourrait bien constituer le premier test du 4e mandat de Vladimir Poutine. Alexei Navalny a en effet appelé la population à manifester aujourd'hui son opposition au relèvement graduel de l'âge de la retraite, de 5 ans pour les hommes à 65 ans et de 8 ans pour les femmes à 63 ans. Une réforme dont l'opposant estime qu'elle nuira particulièrement à la situation des femmes qui risquent d'être privées de ressources à un moment de leur vie où elles ont du mal à trouver un emploi et où elles jouent un rôle important dans l'éducation de leurs petits-enfants dont les parents sont la plupart du temps accaparés par le travail. En Russie, les pensions de retraite s'élèvent au mieux à quelques centaines d'euros par mois et à elles seules ne permettent pas de vivre. Elles constituent en revanche un revenu d'appoint non négligeable pour des retraités qui continuent à exercer de petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Pour le Premier ministre Dmitri Medvedev, qui porte cette réforme, l'objectif est de disposer de moyens financiers supplémentaires pour pouvoir augmenter les pensions de retraite au-dessus du niveau de l'inflation. Mais le message a du mal à passer. La nouvelle a été annoncée au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde de football, ce qui fait dire à certains que le gouvernement a tenté de faire passer cette mesure ni vue ni connue. Une pétition en ligne demandant le retrait de cette réforme a déjà récolté depuis lors plus de 2,5 millions de signatures et la cote de popularité de Vladimir Poutine a perdu plusieurs points dans les sondages. Conscient des difficultés que cause le relèvement de l'âge de la retraite au gouvernement, le médiatique opposant Alexei Navalny a saisi l'occasion. Il a appelé les Russes à protester aujourd'hui en pleine Coupe du Monde contre ce projet.
En Allemagne, c'est bien la pression exercée par son aile droite qui pousse Angela Merkel aujourd'hui à durcir sa politique en matière d'accueil des migrants face à l'ultimatum que lui ont lancé les Bavarois de la CSU. La chancelière a lâché du lest hier pour tenter de sauver sa coalition de gouvernement. La CSU se réunit aujourd'hui pour rendre son verdict, David Philippot.
Les deux partis frères au pouvoir se réunissent séparément cet après-midi, la CDU de Merkel à Berlin et la CSU bavaroise à Munich, avec le même ordre du jour, examiner les conclusions du sommet de Bruxelles. Pour amadouer son ministre Horst Seehofer, la chancelière avait fait rajouter un paragraphe, exprès pour lui, sur les flux migratoires secondaires au sein de l'Union européenne. Depuis le sommet, elle se démène pour arracher l'assentiment de son partenaire de coalition. À l'extérieur, elle a négocié des accords bilatéraux avec 12 pays européens, dont l'Espagne et la Grèce, afin de renvoyer sans délai les migrants dans leur pays d'enregistrement. Sur le plan intérieur, elle a transmis un document de 8 pages à ses partenaires de coalition pour calmer la fronde de son aile droite bavaroise. Le plan d'Angela Merkel prévoit notamment que les migrants arrivant en Allemagne, mais déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne, soient placés dans des centres d'accueil spéciaux. Elle reprend donc à son compte un projet des Bavarois et fait un pas de plus en leur direction. Leur chef Horst Seehofer réserve sa réponse à ses appels du pied.
David Philippot à Berlin pour France Culture. Il est 9h06, des camps de la mort nazie à la légalisation de l'IVG, de la fondation de l'Europe au combat pour les droits des femmes. C'est toute une vie en écho à l'histoire du XXe siècle qu'aura menée Simone Veil. Un an et un jour après son décès, elle fait son entrée ce matin au Panthéon, selon la volonté d'Emmanuel Macron, qui s'érige ainsi en héritier de ses valeurs humanistes. Nous allons tout de suite nous rendre tout près du Panthéon où les cercueils de Simone Veil et de son époux Antoine vont arriver dans à peu près 2 heures maintenant. Bonjour Mathilde Hémy.
Bonjour Camille.
Vous êtes rue Soufflot, dernière étape donc d'une cérémonie très chargée en symboles.
Oui, c'est ici, sur le bas de la rue Soufflot, que les cercueils sortiront des voitures et seront déposés sur un catafalque au pied d'un panneau citant Simone Veil qui se rappelait de ses jeunes années heureuses d'avant-guerre. Bonheur simple, écrit-elle, éclat de rire à jamais perdu, car à 16 ans, elle est déportée. L'expérience de l'indicible marquera tous ses engagements futurs. Et c'est d'ailleurs pour cela que les cercueils sont exposés depuis 2 jours au mémorial de la Shoah et qu'ils partiront tout à l'heure de ce mémorial. Arrivés donc en bas de la rue Soufflot, les gardes républicains les porteront alors jusqu'au Panthéon avec son mari Antoine, le long de ce large tapis bleu roi, symbole de paix et d'union européenne, autour duquel le public commence déjà à s'installer. Les cercueils s'arrêteront sur le parcours de la rue Soufflot 3 fois, marquant les étapes de la vie de Simone Veil, la rescapée, la femme politique portant la loi sur l'IVG, la réconciliation franco-allemande, puis son engagement pour porter l'histoire et la mémoire de la Shoah. Suivront ensuite le discours d'Emmanuel Macron prévu vers 11h30, suivi d'une minute de silence. Pas n'importe quel silence. Le silence de l'aube à Auschwitz, enregistré il y a 2 semaines, bruit d'oiseaux, d'animaux. Les cercueils entreront ensuite dans la nef du Panthéon avec la famille et le couple présidentiel.
Merci beaucoup Mathilde Dehimi, au pied donc du Panthéon avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Simone Veil est la 5e femme à rejoindre les grands hommes de la patrie reconnaissante, comme on peut le lire sur la façade du monument. Mais l'hommage solennel ne doit pas faire oublier la personnalité de cette femme particulièrement vive et attachante. C'est en tout cas le souvenir auquel tient particulièrement l'un de ses proches en politique, le député Modem Jean-Louis Bourlanges, qui lui rend hommage, un hommage amical au micro de Mathieu Desmoulins.
J'avais 20 ans de moins qu'elle, donc une relation quand même un peu filiale de ma part, mais une très très bonne entente. C'est une femme avec laquelle il était agréable de vivre, de participer. C'était pas quelqu'un de solennel, de majestueux, campant sur ses principes. C'était quelqu'un qui avait une solide conviction, de solides principes, qui était décidé à défendre la cause européenne, la cause des femmes, les droits fondamentaux, à lutter contre la xénophobie, le racisme. Tout ça était très net, mais en même temps, c'était une personne incroyablement vivante, drôle, récréative. On évoquait des grands problèmes et après 3 minutes, elle commençait à raconter des histoires en pouffant, etc. Donc c'était un bonheur que d'être avec elle, sauf quand elle se mettait en colère, ce qui arrivait assez régulièrement, parce qu'elle avait un caractère de chien. On avait quand même cet arc-en-ciel en permanence. C'était vivant, c'était très bien, mais il fallait y aller, il fallait accepter ses mouvements d'humeur, ses mouvements d'humour, puis au milieu des grands moments de gravité où nous défendons tous ensemble des causes sacrées. C'était quand même ce mélange des genres. les grands principes et puis la vie, c'était ça, Simone Veil.
Jean-Louis Bourlange avec Mathieu Desmoulins. Le temps de ce dimanche en France, il reste estival, mais la pluie revient par la Bretagne avec des orages prévus dès ce matin et des températures ailleurs dans le territoire qui vont rester cet après-midi bloquées autour des 30 degrés, jusqu'à 34 sur Paris et 36. Alerte canicule maintenue pour Lyon et sa région.